Cet épisode a été réalisé grâce à la contribution de ArchiPro. ArchiPro est une application web de gestion de chantier. Vous êtes à la recherche d'une solution complète, intuitive et innovante pour optimiser chaque aspect de vos chantiers? ArchiPro est là pour répondre à vos besoins. Avec ArchiPro, planifiez vos tâches avec précision, gérez vos budgets avec facilité et suivez l'exécution de vos projets en temps réel. Grâce à sa plateforme web unique, rassemblez tous les acteurs du chantier pour une collaboration optimale. Vous bénéficierez d'une gestion efficace de chaque étape de votre projet, de la planification des travaux à la documentation, en passant par la gestion des sous-traitants et l'évaluation des performances. Des dizaines d'entreprises ont déjà fait confiance à ArchiPro pour leurs projets de construction. Rejoignez-les dès maintenant et transformez vos défis en opportunités. Pour avoir toutes les informations sur ArchiPro, rendez-vous sur le site www.archipro.ci.
Très souvent, on cause des torts à l'environnement. Et puis, si les êtres humains, de par leur bien
Oui.
et autres, voilà, de par leur bien. Et même le décret qui dit que ces projets d'investissement doivent faire l'objet de. Il y a une catégorie hein, de projets, de type de secteur de projets qui doivent faire l'objet de USIHO. Aussi, il y a des sites qui, si vous devez faire un investissement à proximité d'une forêt, même dans une forêt, quel que soit l'investissement, même si c'est un petit investissement, vous êtes obligé de faire les choses. Donc, il y a des
D'accord.
sites. Donc, une entreprise qui te dit non, les dispositions ou les prescriptions environnementales et sécurité au travail leur fait perdre du temps, mais tu sais pas ce que tu perds. Lorsqu'il aura la chose, vous êtes en train de faire un coulage et il y a mort d'homme.
Ouais. Et les morts, c'est
Vous,
fini. Quel que soit le truc,
oui,
il peut plus
vous
revenir.
arrêtez. Tout le monde arrête. Tout le personnel, le choc psychologique, personne n'a l'engouement de travailler. Imagine-toi qu'on a déjà préparé, je sais pas, 20 tonnes ou bien 100 tonnes de béton à couler. Et les gens sont démotivés.
Bienvenue dans un nouvel épisode de PGC, le podcast du génie civil. Je suis votre hôte Alama Dogo et je suis ravi de vous accueillir. Dans ce deuxième épisode de la saison 2, j'ai le privilège de recevoir un invité exceptionnel, le docteur Apo Sylvain. Le docteur Apo, bien qu'il ne soit pas un ingénieur en génie civil conventionnel comme nos invités habituels, occupe une position essentielle au sein de chaque projet d'infrastructure sur lequel il travaille. En tant que consultant environnementaliste au sein d'un organisme de financement en Côte d'Ivoire, il détient un doctorat en sciences et gestion de l'environnement, obtenu à l'université Nangui à Brogoua, anciennement connue sous le nom d'université Abobo-Adjamé à Abidjan. Son expertise s'est révélée cruciale dans le cadre de divers projets d'envergure, dont notamment la construction du troisième pont d'Abidjan. Au cours de cet épisode, nous explorons en profondeur son parcours académique, sa riche expérience professionnelle, ainsi que l'origine du volet environnemental au sein des projets d'infrastructure. Nous plongeons également dans le rôle fondamental de l'environnementaliste au sein des parties prenantes d'un projet en fonction de sa position et de sa perspective. La réalisation de cet épisode a été une source de grande satisfaction pour moi. Je vous invite à vous installer confortablement et à vous laisser emporter par cette conversation enrichissante. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur le podcast, à le faire découvrir à votre entourage et à lui accorder 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Merci de nous accompagner et sans plus tarder, plongeons dans cet épisode fascinant du podcast du génie civil. Bonsoir Sylvain et bienvenue sur PGC, le podcast du génie civil. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. On commence la saison 2, nous sommes au deuxième épisode. Donc avant de commencer la discussion, j'aimerais que tu parles un peu de toi, te présenter un peu aux auditeurs.
Merci Siki. Moi également, c'est un réel plaisir de répondre à ton invitation. Et aussi, c'est un réel plaisir de partager l'expérience acquise dans le secteur du BTP et spécifiquement du volet en environnement. Je suis Sylvain Akbo, Sylvain Kwaku Akbo. J'ai un doctorat en sciences et gestion de l'environnement obtenu à l'université Nangua-Abrogwa, anciennement appelée université d'Abobo-Diami. Oui. Où j'ai fait tout mon cursus après mon échec en classe préparatoire à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro en 1997.
Comme quoi, ce n'était pas obligatoirement un échec, hein?
Oui, bon, oui, moi, parce que je rêvais d'être ingénieur agronome, voilà, donc j'ai encore pas mal d'amis qui sont devenus ingénieurs agronomes avec qui on se partage les anciens, les bons moments, les souvenirs de l'INP, des classes préparatoires, mais bon, avec un pincement au cœur, mais... après arriver à l'université d'Abobo-Diame, j'étais un peu évasif, juste parce que j'étais encore cette peine-là. Et par les conseils de certains amis, certains promotionnaires, parce qu'on était près de plus d'une dizaine d'anciens du prépa.
À
nous retrouver, donc les conseils, les encouragements des uns et des autres, bon, et puis certains parents, donc on a pris les choses à bras le corps, et puis bon, on a commencé à se remettre au travail, et puis bon, la deuxième, le DEUG, la licence, la maîtrise, et puis bon, l'appétit venant, le 2 en sciences et gestion de l'environnement. Mmh. Et puis bon, le doctorat, voilà.
D'accord.
Le doctorat en janvier 2013.
Ok.
Voilà. Et là, j'ai travaillé particulièrement sur l'impact de l'agriculture sur l'environnement, surtout les produits agro-industriels.
Ce qu'on appelle phytosanitaire.
Voilà, phytosanitaire, okay. Et en alliant plusieurs paramètres environnementaux et en utilisant les outils des systèmes d'information géographique et la télédétection à modéliser spatialement les zones et détecter les zones potentiellement susceptibles de pollution, surtout les ressources en eau,
okay,
de surface. Et après cela, le troisième pont, la construction du troisième pont qui venait de démarrer, on cherchait un environnementaliste, okay, pour coordonner les aspects, les activités, les choses. Bon. J'ai déposé mes dossiers, j'ai suivi trois, d'accord, étapes d'entretien.
Entretien, afin de pouvoir. Bon,
voilà. Et on m'a fait un test d'un mois, après un mois, donné un test de 3 mois. Voilà. Et puis, c'est parti jusqu'à 2 ans.
Tu es devenu environnementaliste.
Voilà.
À temps plein.
À temps plein.
On va dire ça comme ça.
Voilà, à temps plein avec, 2 ans, de décembre 2012, du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2014.
OK. Ben, au fait, de ta présentation, je pense qu'il y a déjà beaucoup de, je ne sais pas si je dois dire d'enseignement, on n'est pas en développement personnel, mais je pense qu'il y a, beaucoup de choses à tirer, au fait, parce que normalement, la question qui suivait directement, c'était pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. J'avais essentiellement des personnes qui étaient ingénieurs génie civil, donc je leur demandais pourquoi est-ce qu'ils avaient fait le choix du génie civil. Dans ton cas, il se trouve que tu n'es pas ingénieur génie civil.
Non.
Mais actuellement, tu travailles essentiellement sur des projets de génie civil.
Ah oui.
Et ce n'est pas quelque chose que tu as mûri depuis, on va dire, le bas âge. Mais tu, au fur et à mesure, par la force des choses, tu t'es retrouvé dans ce milieu-là. Et puis, la deuxième chose, c'est... Oui, il y a des échecs qui arrivent dans la vie, mais rien n'est jamais fini tant qu'on ne baisse pas les bras, au fait.
Oui.
C'est vraiment intéressant de faire ressortir ce genre de choses parce que quand on est étudiant, quand on a un zéro, on pense que c'est la fin du monde, ou bien quand on reprend une classe, on pense que c'est la fin du monde. Mais lorsqu'on écoute ce genre de témoignages pour des personnes qui ont eu des échecs dans leur vie, dans le passé, qui ont pu se relever, faire quelque chose qui a de la valeur aujourd'hui, je pense que c'est intéressant, surtout pour les plus jeunes qui nous écoutent, au fait. Et puis, la deuxième chose, c'est que je suis content de te recevoir aujourd'hui parce que lors de la première saison, il y a un auditeur qui m'avait écrit spécialement. Il me dit que vraiment, j'aime ce que tu fais et tout, mais j'aimerais que tu puisses avoir quelqu'un qui va parler d'environnement sur les chantiers. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de déjà discuter avec toi et puis on va parler d'environnement sur les chantiers.
Mmh.
OK. On va poursuivre. C'est quoi un environnementaliste sur un chantier de BTP? C'est quoi son rôle? C'est quoi son importance? Est-ce qu'on a obligatoirement besoin d'avoir un environnementaliste sur un projet?
Oh oui, je vais dire tout de suite oui à l'affirmative parce que je vais partir un peu de l'origine. Hein. Le génie civil, c'est vrai, pas forcément le génie civil, mais c'est venu d'un constat des bailleurs de fonds et surtout les projets d'investissement.
Ouais.
Et on a beaucoup financé, les bailleurs de fonds financent les projets d'investissement et on constate, on fait des réalisations et très souvent, on cause des torts à l'environnement. Et puis aussi aux êtres humains, de par leur bien
oui.
et autres, voilà, de par leur bien. Mais aujourd'hui, on a intégré ce visage humain-là, dans, surtout les bailleurs de fonds, intégré ce visage humain au niveau de leurs projets, des projets qu'ils financent. C'est-à-dire, on ne doit pas réaliser des investissements en piétinant, ou j'allais dire en piétinant, entre guillemets, le respect, la protection de l'environnement. Étant donné que la protection même de l'environnement est un enjeu mondial aujourd'hui, depuis Rio 92, c'est devenu. Mais bien avant, il y a eu des choses, des questions environnementales au niveau international. Mais c'est le clou, c'était depuis Rio 92. Donc, à partir de Rio 92, la conférence sur l'environnement, tout le monde a commencé, les Nations Unies et par derrière, tous les bailleurs de fonds ont commencé à avoir un regard.
Est-ce à dire qu'avant Rio 92, il n'y avait pas vraiment cet accent, un accent n'était pas mis sur le volet environnemental des projets d'investissement?
Pas vraiment, mais ça se faisait.
Okay.
Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire où il y a eu des projets, quand vous prenez l'aménagement de la vallée du Bandama où on parle de AVB, ou même on parle c'est issu à la construction du barrage de Kossou.
Okay.
Il y avait la prise en compte de ces questions sociales ou environnementales, mais ce n'était pas systématique, ce n'était pas de facto engagé ces questions. Et après ça, à part quelques projets, il y a eu où les questions environnementales et sociales étaient une préoccupation. Il y a eu d'autres projets où on impactait, on détruisait les forêts classées, ou en tout cas des zones écologiquement sensibles, mais sans prendre des dispositions adéquates, comme le fait maintenant, où c'est devenu une prise de conscience. Même cela, dans nos pays, ce n'est pas aussi systématique.
Parce que c'est essentiellement les projets d'investissement.
Les projets d'investissement sous bailleurs, sinon si les projets financés par les États, ce n'est pas... Hormis quelques pays comme le Rwanda où c'est systématique, où les questions environnementales, la législation est rigoureusement appliquée, ou les pays du Maghreb, mais nos pays, ce n'est pas systématique parce que les projets financés sur le budget de l'État, ces questions ne sont pas systématiques.
De mon expérience, avec les projets d'investissement, lorsque les bailleurs viennent, on a parfois l'impression qu'ils mettent l'accent plus sur le volet environnement que sur la technique. Je ne sais pas si c'est parce qu'on se dit que bon, okay, les techniciens ils maîtrisent ce qu'ils ont à faire. Et puis bon, ou bien, je ne sais pas si tu as fait cette remarque-là, mais moi, de mon expérience, c'est le constat que je fais. Lorsqu'un bailleur vient sur un projet qu'il finance, on a l'impression, je dis bien l'impression, que le volet environnemental est le plus important pour lui.
Bon, c'est l'impression qu'on a, mais je partage pas totalement. Tout y est. C'est pas seulement l'environnement. Il y a les questions de santé et sécurité au travail aussi.
Ok.
Les questions de santé et sécurité. Même si c'est pas un bailleur, mais si vous prenez les multinationales dans le BTP.
Oui.
Les multinationales dans le BTP systématiquement. Ils enclenchent ces questions-là. Pourquoi ? Parce que derrière, ces multinationales sont certifiées.
OK.
Pour différentes normes. Mm-hmm. Mais c'est quoi ces normes ? Ces normes, c'est les experts, les gens qui sont chevronnés dans tous les secteurs d'activité. Ils ont vu, il y a des manquements et... sur les questions environnementales, sur la qualité du service, sur la qualité du rendu. Et c'est pour cela qu'ils ont mis ces normes en place. Ils sont regroupés au niveau de ISO, International Standard Organization, l'Organisation internationale des normes.
OK, l'ISO. Bon,
ISO. Donc, pour mettre ces normes en place. Mais c'est, et même certains multinationales, en l'occurrence Bouygues, avec AFAC, ont initié... une norme interne qu'on appelle écocite, hein, une norme écolabel.
Quand tu dis une norme interne, c'est quoi?
C'est-à-dire pour labelliser au niveau du point de vue environnemental leur chantier.
Ok, d'accord.
Leur chantier.
Et ça, ça s'applique seulement, on va dire, au groupe Bouygues, parce que oui, si c'est interne, c'est-à-dire que les autres entreprises, c'est pas, ils n'ont pas ce label-là.
Non, c'est un label Bouygues.
Ah, ok, d'accord.
Oui, c'est un label Bouygues. Donc, d'autres multinationales peuvent initier ces labels. Hein. Aujourd'hui, même en termes de développement, responsabilité sociétale, RSE, il y a des labels, Luci et autres, c'est plus avoir un impact au niveau environnemental. Donc, c'est vrai, les bailleurs, ce sont les bailleurs qu'on voit, mais les bailleurs, la plupart des bailleurs, s'appuient sur la législation locale.
OK.
Les bailleurs ne disent pas autre chose. C'est vrai que les bailleurs ont des normes, ont des standards, mais d'abord, les standards appliqués, les choses conjuguées avec, associées aux normes locales, parce que nous-mêmes, on n'applique pas nos normes. Notre législation.
Ça, par contre, j'aimerais rebondir dessus. Pourquoi est-ce que, à ton avis, on n'applique pas, on va dire quoi, nos normes ? Parce que tout ce qui est, quand on parle d'environnement, de volet social sur un projet, ça nécessite. Il y a un coût. Tu penses que lorsque ce sont des projets, on va dire en interne, qui sont financés soit par l'État ou bien par, oui, on va dire par l'État, c'est parce qu'il y a ce volet financier-là qui pose un problème. Ou bien pourquoi est-ce que nous, on ne s'intéresse pas à ça comme les bailleurs le font quand ils financent un projet?
Oui, mais les bailleurs, d'abord, sont guidés par la conscience environnementale. Ça, okay. C'est d'un. De deux, lorsqu'il s'agit d'un bailleur, s'il y a un manquement ou une infraction liée à l'environnement, on a des lobbyistes tels que les ONG, oui, internationales, tout de suite la presse. Donc le bailleur, après tout, avant et après tout, c'est un banquier.
Oui.
Donc un banquier a ce qu'on appelle le préserver son image.
Son image, oui, tout à fait.
Son image. Donc on parle de risque réputationnel.
Mmh.
Donc, si le bailleur met son argent quelque part et que dans cet investissement-là, il y a un manquement à l'environnement ou au social, bon, on détruit les biens des populations et
sans les indemniser,
on ne dit rien. Mais si ces populations se soulèvent, bon, si les plus généreux, les populations les plus généreuses, elles vont juste faire des revendications.
Ouais.
Mais il y a d'autres où, en termes de violence, vont bloquer carrément l'investissement.
Ouais.
Or, le bailleur a déjà décaissé. Donc, si l'investissement ne va pas jusqu'à son terme, on fait retour sur investissement, comment?
Ouais.
Voilà. Donc, déjà, on va dire, bon,
il y a le volet quoi, image. Si
Banque mondiale ou BAD en train de financer un projet et ils utilisent l'argent de la Banque mondiale ou de la BAD pour nous spolier de nos biens,
oui,
ou pour polluer notre cours d'eau où on va pêcher, où on a nos activités de pêche et autres. On n'arrive plus à se nourrir ou on tue les poissons. Donc imaginez, on saisit les ONG, UCN ou bien WWF, bon, en tout cas, pas mal de lobbyistes.
Oui.
Et regardez l'envergure médiatique, voilà, médiatique et autres, tout ça. Voilà, donc, en termes de conscience,
je pense qu'il y a le volet, on va dire, image. Ouais. Le bailleur veut préserver son image. Et puis aussi, il y a le volet retour. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est un business. Un projet d'investissement, c'est un business pour le bailleur.
C'est donc, un prêt.
Oui, c'est un prêt qui sera
remboursé.
C'est vrai
qu'il y a des dons.
Voilà.
Le prêt, donc, qui dit remboursement.
Oui. Donc, quelque part, il y a ces deux points-là. Ce n'est pas obligatoirement les deux points seulement. Mm-hmm. Mais c'est ce qui sort déjà de prime abord, en fait.
Ouais.
Donc, on va dire que, quelque part, l'État n'a pas ce problème.
Non, mais l'État a ce problème. Mais justement, pourquoi l'État prend la législation régie des règles, des lois, des arrêtés pour préserver l'environnement? Sans que les bailleurs, l'État, il y a un ministère de l'environnement, il y a un code de l'environnement, il y a des décrets d'application, il y a des arrêtés. Pourquoi on prend ces tests-là si ce n'est pas pour faire respecter cette législation?
Ouais.
Donc, ça veut dire que l'État a une conscience environnementale ou okay. sociale. Donc, non seulement, comme on l'a dit, il y a quelqu'un, il faut préserver l'environnement. Je vais paraphraser, laisser l'environnement. Les générations futures, il faut leur laisser un environnement sain et tout. Et ça, même dans notre constitution, et surtout pour le cas de la Côte d'Ivoire, dans notre constitution, c'est bien inscrit.
Okay.
Voilà. Donc, il faut que l'État met, qui dit la législation, mais le problème est dans l'application. Ceux qui sont chargés de faire appliquer cette législation, c'est là le problème.
Oui, mais bon, je pense que ce problème-là, c'est pas seulement au niveau de l'environnement. On a beaucoup de dispositions qui sont prises et puis l'application pose plus ou moins problème.
Justement.
D'accord. Avant de continuer, j'aimerais, vu qu'on nous sommes dans les généralités, j'aimerais qu'on définisse certains termes comme par exemple, c'est quoi une évaluation environnementale? C'est quoi la sauvegarde environnementale et sociale? Si on peut vraiment expliquer pour quelqu'un qui ne sait absolument rien de la gestion environnementale et sociale d'un projet, pour qu'il puisse se faire une idée au fait. Quand on parle par exemple d'une évaluation environnementale, qu'est-ce qu'on entend par là?
Bon, l'évaluation environnementale et sociale, c'est toutes les études qui vont permettre d'identifier tous les risques qu'une activité a sur le plan environnemental et social. Okay.
Donc
et
ça,
puis, les dispositions à prendre pour
atténuer,
atténuer si on ne peut pas supprimer, on atténue. Maintenant, si c'est les risques, ce n'est pas des risques, bon, qui dit risque dit que c'est négatif, mais s'il y a des mesures positives, comment les bonifier, c'est-à-dire donner plus de valeur, améliorer davantage ces conditions-là.
D'accord, là je pense qu'il y a un point que tu as mentionné que peut-être qu'on ne garde pas souvent à l'esprit, l'impact environnemental d'un projet sur son, oui, sur son environnement, ce n'est pas obligatoirement négatif.
Oui, oui.
Ça peut être positif.
Oui. Mais très souvent, c'est le volet social qui est le positif et a trait plus au volet social.
Ok, d'accord. Peut-être avant de continuer, l'évaluation telle que tu l'expliques, j'ai l'impression que ça se fait vraiment en amont du projet. Peut-être que ça peut continuer en phase d'exécution, mais ça, tel que je le comprends, c'est, j'ai l'impression que c'est vraiment en phase d'étude.
Oui, comme on le dit... toutes les évaluations environnementales et sociales, c'est avant.
D'accord.
Avant. C'est avant GADIS, parce qu'il y a plusieurs types d'évaluations. Bon, il y a ce qu'on appelle les CGS, les cadres de gestion environnementale et sociale. Ça, c'est des documents cadres. Ça, c'est une évaluation aussi.
D'accord.
Ça concerne c'est le volet environnement et puis social, mais... Okay. Des projets dont on ne connaît pas le site de réalisation. Et c'est la même chose au niveau social, c'est le cas de politique de réinstallation.
Mais si on ne connaît pas le site, pour le moment, comment est-ce qu'on peut vraiment faire une évaluation qui aura son impact?
Oui, mais c'est générique. On dit, bon, je dis quoi, on doit faire des travaux ou des projets d'investissement dans telle région.
OK.
On ne connaît pas exactement, avec précision,
la localité
ou le site. Donc, on fait un document cadre qui va prendre en compte, identifier les impacts ou risques de façon générique.
Ok.
Je connais les travaux liés à l'investissement.
Ok.
Donc, de façon générale, de par l'histoire, l'historique de ce type de travaux, on a des impacts de façon générique.
Okay.
Et il y a des mesures de façon générique pour adresser ces risques-là.
Et maintenant, dès qu'on aura, on va dire, le site propre du projet, on a des, plus ou moins des informations de manière générique qu'on va maintenant adapter.
Voilà. Là, parce qu'un site, ce qui se passe, l'environnement immédiat d'un site A n'est pas le même qu'un site B.
Oui.
Donc, on a le site. Donc, on doit envoyer les experts, les spécialistes de divers domaines. Il peut y avoir des hydrologues, chapeautés par un environnementaliste. En fonction de l'activité qui va avoir lieu, des spécialistes, des pédologues, ou à dépend de l'ampleur du projet,
okay,
on fait des études spécifiques et fait sortir... d'abord l'état initial, ce qui est là, et puis présager en fonction des activités qui vont avoir lieu, quels sont les impacts et puis les risques qu'on pourrait avoir sur le site et sur les populations riveraines et les travailleurs qui seront dans l'activité. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental et social.
Donc c'est vraiment un ensemble, au fait. C'est-à-dire qu'on ne se focalise pas seulement sur peut-être l'environnement, mais il y aura l'environnement, il y aura les populations riveraines, et même ceux qui vont faire les travaux,
oui,
on tient compte d'eux aussi.
Oui, on tient compte d'eux, parce qu'on se dit qu'il y aura les différentes phases des travaux. Il y aura ce qu'on appelle la préparation du site et autres. Après, il y a la phase de construction même de l'investissement, la phase des travaux.
Oui.
Et puis, il y aura une phase exploitation. Et tout ça, il faut tenir compte de tous les acteurs qui sont in situ comme qui sont riverains.
D'accord. Donc, ça dit l'évaluation environnementale, c'est... comment on appelle ça ça va vers l'EIS qui est l'étude ou bien c'est une partie de l'EIS?
Non. L'évaluation environnementale, il y a plusieurs types d'évaluation environnementale.
Okay.
Donc, c'est de façon générale, c'est l'ensemble qu'on appelle évaluation environnementale et sociale.
Ok.
Mais en fonction, comme je l'ai dit, en fonction...
Soit on est générique, soit... qu'on...
Soit on est générique, c'est, là, ce sont des documents cadres qu'on okay. va produire. Si on est... comment dirais-je on connaît le site, on va produire ce qu'on appelle l'EIS.
Ok.
Mais il y a d'autres types d'études. Par exemple, le plan de gestion des pestes. Ça, c'est une évaluation.
Le plan de gestion des...
Des pestes.
Ok.
Auparavant, on parlait de plan de gestion des pestes et pesticides. Mais aujourd'hui, on reste un seul pays, le plan de gestion des pestes.
Est-ce que ça, c'est lié à tout type de projet d'investissement?
Non, ce n'est pas tout type de projet. C'est des projets du secteur agricole.
Ok, d'accord.
Si c'est des investissements agricoles, on va réaliser ce type d'instruments.
Ok.
Et il y a toute une panoplie. Il y a ce qu'on appelle évaluation environnementale et sociale stratégique. Voilà. Donc, il y a... et même l'audit environnemental, c'est aussi une évaluation.
Ok.
Mais là, c'est un outil de gestion. Donc, il y a toute une panoplie d'instruments comme ça, mais donc, qui est regroupé dans l'ensemble évaluation, on coupe court en disant évaluation environnementale et sociale.
Ok, d'accord.
Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'études dedans.
Mm-hmm.
Voilà.
D'accord.
Donc, on peut parler de plan de gestion biodiversité, c'est une évaluation.
Il y a un thème qui revient très souvent dans les chantiers de BTP, le PGS. Ou bien il est différent?
Oui, le PGS, c'est quoi? C'est un plan de gestion environnementale et sociale.
D'accord.
Tout EIS est assorti d'un PGS.
D'accord.
Donc, quand vous avez identifié, vous avez évalué, vous avez préconisé des mesures de... D'atténuation,
mais voilà. De suppression carrément.
Donc tout ça, vous les regroupez dans un plan.
Ok.
Comme un plan d'action avec une matrice de synthèse. Donc c'est ce plan-là pour gérer tout ce que vous avez identifié comme impact et risque.
Ok.
C'est ça qui est le plan de gestion environnementale et sociale.
Et ça, c'est mis à la disposition de l'entreprise, c'est ça? Parce que j'imagine que c'est pas l'entreprise en phase d'études, l'entreprise n'est pas encore connue. Il y a un bureau d'études qui fait les études, qui fait son EIS, qui a sorti un PGS. En phase de chantier, ça se passe comment? Est-ce que c'est le même environnementaliste qui va venir mettre en œuvre le PGS?
Non, c'est pas le même. Ça, l'idéal, ça peut être le même environnementaliste, mais comme c'est, comme on le dit, les parkings sont partagés.
Oui.
C'est le porteur du projet qui réalise son EIS.
Ok.
Ça peut être un privé qui veut construire une usine, qui veut faire une activité d'investissement, un projet d'investissement. Ça peut être un privé. Ça peut être l'État même, par exemple avec les bailleurs de fonds, mais les bailleurs de fonds aussi financent des privés. Donc, l'État, par ses ministères techniques, peut préparer pour le bitumage des routes, peut préparer son, doit préparer son EIS.
OK.
Mais là aussi, l'EIS, ce n'est pas de facto en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Il y a, en fonction de la catégorie du projet, il y a des projets, en Côte d'Ivoire, il y a des projets qui sont soumis à EIS, il y a d'autres qui sont soumis à constat d'impact CUS, constat d'impact. Ça veut dire que les impacts sont modérés.
Okay.
Donc, on fait un EIS simplifié. Une EIS.
Et tout ça, c'est déjà donc, catégorisé dans un document
oui,
par l'État,
oui,
c'est ça?
Par l'agence, le guichet unique des EIS. Okay. Des évaluations environnementales en Côte d'Ivoire, qui est la NDE,
okay.
Connaît c'est les différents. Et même le décret qui dit que ces projets, les projets d'investissement doivent faire l'objet de. Il y a une catégorie hein, de projets, de type de secteur de projets qui doivent faire l'objet de EIS. Aussi, il y a des sites. Qui, si vous devez faire un investissement à proximité d'une forêt ou même dans une forêt, quel que soit l'investissement, même si c'est un petit investissement, vous êtes obligé de faire les choses. Donc, il y a des sites, il y a des sites et il y a la liste des projets qui sont.
C'est-à-dire que tout est catégorisé, classifié en fonction du type de projet, la taille du projet ou bien du site où on compte implanter. Il y a, en fonction de tout ça maintenant, soit on fait une étude sommaire ou bien on fait vraiment une étude un peu plus approfondie.
Approfondie,
voilà. D'accord. Maintenant, dans le cadre de...
Non, je n'ai pas fini.
Allez-y.
Maintenant, comme on le dit, le maître d'ouvrage ou le promoteur ou fait son étude. Mm-hmm. Mais... il est obligé de s'associer, de recruter un bureau d'études qui a l'agrément de l'agence en charge des évaluations environnementales.
Okay.
Donc, ce bureau va faire l'étude. Donc, le document est propriétaire du le promoteur est propriétaire de ce document de que ça soit l'EIS ou bien le CIS. Mm-hmm. Le promoteur ou le maître d'ouvrage délégué est propriétaire de ce document-là.
D'accord.
Maintenant, étant donné que le maître d'ouvrage délégué ou le promoteur lui-même, il n'est pas, ne sait pas réaliser les travaux, va contracter une entreprise
oui.
qui sait construire. Mais le document qui a été produit, est... lié au projet.
Oui.
Comme je l'ai dit, il y a plusieurs phases. Il y a la phase installation, la phase préparation, disons, et puis la phase travaux, et puis la phase exploitation. Donc, vous remettez dans votre contrat avec l'entreprise qui sait que son métier, de faire des travaux, vous remettez dans son contrat votre document. Mmh. Et lui, il doit se l'approprier. Donc, quand il se l'approprie, surtout le PGS, comme je l'ai dit, vous avez identifié, évalué, et c'est le condensé qui est dans le PGS.
Okay.
Donc, l'entreprise va s'approprier le PGS. Devenant parce que c'est la partie travaux, installation et préparation et travaux qui lui revient.
Oh oui.
Donc, va transformer ce qu'on appelle le PGS chantier.
D'accord.
Et là, il va produire un document opérationnel. C'est-à-dire,
donc là,
n'importe
est-ce
quoi.
Que là, on peut estimer que ce qui a été transmis à l'entreprise est encore générique? C'est vrai qu'il était précis. Mais vu que l'entreprise est essentiellement dans l'exécution, elle doit s'approprier, puis récupérer une partie et puis l'améliorer.
Oui, il doit améliorer, proposer des mesures concrètes.
D'accord.
Je dis, on propose des choses. Maintenant, ça, c'est en amont. Et lorsque l'entreprise sera en train de réaliser, va prendre ce PGS qui a été... Bon, quand on va dire générique, c'est pas aussi générique.
Non, c'est pas aussi générique,
voilà.
Puisque on a
générique,
dit...
mais il faut un peu entre guillemets, mais l'entreprise sera sur le feu des opérations. Donc, c'est pour cela que le PGS chantier doit avoir une périodicité de renouvellement, d'actualisation.
Donc, oui, parce qu'en même temps...
Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on arrive à faire. Au départ, vous allez écrire des choses.
Oui.
Après, pendant la,
la, phase d'exécution.
La phase où vous êtes en activité, il y a des adaptations à faire.
Parce que
souvent,
il y a
des choses que vous êtes à votre manière de faire. Vous allez dire des choses, par exemple, la gestion des déchets. Mais dites ce que vous faites. Ce que vous faites, vous l'écrivez. Ce que vous écrivez, c'est ce que vous faites.
D'accord. Parce qu'en même temps, de l'étude à l'exécution, parfois, il peut se passer une bonne période de temps. Hein. Oui. Et quand c'est comme ça, beaucoup de paramètres peuvent avoir changé.
Oui.
Donc, raison de plus pour un peu conforter ce que tu dis là, qu'il y ait une actualisation et tout.
Oui, il faut actualiser.
D'accord. Maintenant, en phase d'exécution, est-ce que l'entreprise fait seulement le PGS chantier ou bien il y a d'autres documents que l'entreprise doit faire concernant le volet environnemental et social?
Oui, bon, les autres sont... L'élément principal, c'est le PGS chantier, mais il y a des annexes, par exemple, le plan de gestion des déchets, c'est l'annexe au PGS chantier. Il y a le plan hygiène, santé, sécurité. Il y a le plan particulier de protection, santé, sécurité, ce qu'on appelle le PPPSPS. Donc, il y a tous ces documents-là, mais c'est et environnement et santé.
Santé,
sécurité au travail. Voilà. Donc, tout ça, c'est le PGS chantier avec ses annexes.
Il y a aussi un document que je vois très souvent qui est le PAR. Maintenant, ça, c'est compris dans l'EIS, c'est ça?
Non, le PAR, c'est d'autres, comment on dit, il y a une panoplie de documents qu'on appelle et qui sont regroupés dans l'évaluation environnementale et sociale. Voilà, donc le PAR, qui est le plan d'action et de réinstallation, ça aussi, c'est une étude à part, mais exclusivement sociale.
D'accord.
Okay. Voilà, on voit les personnes, les personnes et les biens qui sont impactés, les évaluer, les quantifier, et puis mettre des dispositions pour indemniser
les populations impactées.
Ces populations-là.
D'accord. Dans les projets d'investissement, on a plusieurs parties prenantes généralement. Mm-hmm. On a les bailleurs, on a le maître d'ouvrage, mm-hmm. On a l'entreprise et puis la mission de contrôle.
Mm-hmm.
Et presque toutes ces entités-là ont des environnementalistes en interne.
Effectivement.
Est-ce que le rôle de ces environnementalistes est pareil à chaque niveau?
Je vais dire oui, mais il y a des spécificités.
Est-ce qu'on peut essayer de parler un peu de ces spécificités?
Oui. Et d'abord, il y a, ça s'inscrit dans le temps.
OK.
Et puis, il y a d'abord la compétence, et puis il y a l'expérience, tout ça. Par exemple, le bailleur, les spécialistes, l'environnementaliste du bailleur, par exemple. Lui, depuis le début, l'idée de projet, lui, déjà, il intervient.
C'est ça.
Dans la phase d'identification du projet, il évalue les risques tout, au niveau environnement du projet, tout ça là.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, lui, il est partout dans le cycle du projet. D'abord, à l'identification, à la préparation du projet. C'est lui qui va regarder les documents que le client va préparer.
D'accord.
Et faire les diligences nécessaires pour que le projet soit approuvé et validé.
OK.
Ça, c'est la phase de préparation du projet. Il intervient. Dans la phase de réalisation du projet, il va suivre les aspects environnementaux, ce qu'on a mis dans la préparation, lors de la préparation, toutes les diligences, les conditions au niveau environnement, au niveau social, tout ça, pendant la phase de réalisation, il intervient, il suit le projet pour que pour s'assurer que l'emprunteur a mis en œuvre les mesures qui étaient dans l'accord de financement. Mmh. En interagissant, en faisant des missions d'appui aussi.
En adaptant aussi, j'imagine.
Parce que lui suit. Ah, okay. Maintenant, c'est à l'emprunteur s'il y a eu des changements, mais il doit informer. Comme on l'a dit tantôt, c'est une banque, un bailleur, c'est une banque qui donne un prêt. Mais lui veut s'assurer que, au niveau environnemental et social, toutes les dispositions sont prises pour que le projet aille à son terme.
À son terme, oui.
Et tu vois. Quand le projet finit, lui, il doit s'assurer que où c'est fini, il y a toutes les questions environnementales liées à la cessation d'activité, tout ça est pris en compte. Et souvent, même en phase d'exploitation, lui, il est là encore pour suivre également, tant que le prêt n'est pas encore remboursé. Bon, très souvent, c'est avec les privés. On suit même en phase de...
d'exploitation.
D'exploitation ou un chose. Bon, ça dépend des types de prêts. Ça, c'est l'environnementaliste du bailleur. Au niveau du maître d'ouvrage, pendant la phase de préparation, il doit avoir un environnementaliste aussi pour interagir avec l'environnementaliste du bailleur.
Du bailleur, oui.
Parce que c'est le pays qui doit préparer tous les instruments, toutes les évaluations environnementales et sociales, et que tous les documents qu'on doit, si c'est EIR, si c'est PAS, si c'est plan de gestion de biodiversité, plan de gestion des pestes, en tout cas tous les documents, aujourd'hui on parle de plan d'engagement des parties prenantes, plan de gestion de la main d'œuvre pour la Banque mondiale, et en tout cas tout ce qui est documentation environnementale et sociale, l'environnementaliste de maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué ou bon, l'emprunteur doit de en synergie
avec celui avec du bailleur.
Celui du bailleur chose. Donc, vous voyez son rôle.
Okay.
Lui également, pendant la phase de réalisation, c'est lui qui est l'interlocuteur du bailleur.
D'accord.
De l'environnementaliste du bailleur. Donc, il s'assure également, j'ai dit, le bailleur, l'environnementaliste du bailleur est sur tout le cycle.
Oui, tout le cycle du projet.
Du projet. Donc, également, l'emprunteur, son environnementaliste, doit être également sur tout le cycle du projet, en interaction avec chose. Par contre, lorsqu'on est en phase de travaux,
oui,
la mission de contrôle, c'est le relais de l'environnementaliste de la mission de contrôle, c'est le relais de l'environnementaliste
du maître d'ouvrage.
Du maître d'ouvrage.
OK.
Ou l'unité de gestion du projet. Donc, cet environnementaliste de la mission de contrôle, lui, il est proche des travaux et il s'assure que le maître d'ouvrage, les engagements que le maître d'ouvrage a pris au niveau du bailleur sont réalisés. C'est en termes de suivi, en termes de mise en œuvre des dispositions sur le terrain.
D'accord.
Comme le maître d'ouvrage est son environnementaliste, il ne peut pas être tout le temps
en permanence sur le chantier. Puis s'il arrive, qu'il puisse suivre plusieurs projets en même temps.
Il a su plusieurs projets. Donc, la mission de contrôle est son relais et plus proche des travaux.
Si, si.
D'accord. Maintenant, dans la mise en œuvre, la mission de contrôle contrôle. Donc, la mission, l'entreprise aussi doit avoir
un environnementaliste en
un état. Environnementaliste avec tous ces relais. Ça peut être un environnementaliste comme deux environnementaux, plusieurs en tout cas.
En fonction du projet.
Voilà, du projet. Mais et tous pas par la même qualification. Avoir un avec un bas plus 5 avec qui est le coordonnateur ou manager, et puis avec des relais. Mais sur l'entreprise doit avoir un environnementaliste pour réaliser toutes les conditions, toutes les dispositions qu'on a mis dans le PGS.
D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est parmi toutes les parties prenantes, c'est plus ou moins la même chose, mais chacun a son interlocuteur. Ouais. Et puis chacun, tel que tu l'expliques, le bailleur, son interlocuteur, c'est celui du maître d'ouvrage de l'EO de l'agence. Mm-hmm. Celui de l'agence, son interlocuteur, c'est celui de la mission de contrôle. Mm-hmm. Et puis celui de la mission de contrôle, c'est vraiment une chaîne, quoi.
C'est une chaîne. Pour qu'on arrive, il faut qu'il y ait, pour qu'on arrive plus proche et sur le site, qu'on soit proche du site des opérations, voilà, des travaux pour s'assurer que toutes les dispositions qu'on a prises depuis le début. Mais il y a toujours des adaptations en fonction des réalités du terrain.
Oui, c'est clair. Voilà. OK. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de projets plus concrets. Là, on a expliqué tout de manière générale. Est-ce que tu as un projet dont tu aimerais nous parler avec les mesures qui ont été prises? Bien sûr, si ce n'est pas confidentiel, parce que très souvent, on a des projets pour lesquels c'est difficile de parler. Donc, tu essaies de regarder de ton expérience des projets sur lesquels tu as travaillé, ce que tu peux partager avec nous, de telle sorte qu'avec toutes les explications que tu as données, on puisse vraiment mettre la main sur, par exemple, pour tel projet, on a fait l'EIS, on a rencontré tel problème. En face de tel problème, on a décidé de mettre ça en œuvre, ainsi de suite. Et puis peut-être en phase d'exécution, ça n'a pas marché, on a dû réadapter, ainsi de suite. Je ne sais pas si tu vois un peu. Mm-hmm. Voilà. Donc si on peut parler d'un projet concret comme ça, tu regardes et puis tu nous le dis.
Bon, on ne peut pas dire que... ça n'a pas marché parce que généralement, ceux qui élaborent les documents, c'est des gens qui ont de l'expérience. Et puis, on sait, très souvent, c'est peut-être de corriger quelques éléments. C'est tout en fonction des réalités. Bon, il ne sait pas, peut-être de façon concrète. On a fait tellement de choses. Je ne sais pas qu'est-ce que... Bon, si je prends le cas du troisième pont d'Abidjan, bon, là, c'était mon projet le plus majeur. Sinon, j'ai fait pas mal de projets.
Okay.
J'ai fait beaucoup de, surtout dans le BTP, AEP, chose. Mais là, pratiquement... comme on l'a dit tantôt, c'est l'engagement surtout de l'entreprise à mettre les moyens à disposition pour pouvoir travailler. C'est ça. Bon, les autres projets que j'ai suivis, soit c'est des PME ou bien des entreprises qui veulent faire forcément du profit et qui
lésinent un peu sur les moyens pour l'environnemental.
Sur les moyens. C'est cela, ce qui est un peu ma peine, mais je n'ai pas cité.
Non, bien sûr, on n'a pas besoin de citer.
Ou de projets pour ne pas indexer des gens. D'accord. Mais moi, je pense c'était ma première grosse expérience, le troisième pont, mais les moyens étaient dégagés à tout point de vue et à tel point que lorsque tous les visiteurs arrivaient sur le chantier, ils étaient bluffés de la propriété. On a fait un tel projet avec plus de 1800 personnes mobilisées sans zéro accident mortel.
Ouais.
Bon, c'est les choses. Et puis, bon, le chantier clean. Voilà, c'était un peu... bon, je ne sais pas, je ne peux pas indexer, mais tout ce qu'on a fait, bon, comme je l'ai dit, il y a des choses sur certains chantiers, soit des entreprises locales ou bien il y a des prescriptions environnementales, mais les moyens n'étaient pas dégagés pour qu'on fasse. Moi-même, en tant que spécialiste environnementaliste, tu es un peu peiné, mais tu ne vois
pas. Oui, hein. Tu ne peux travailler avec ce que tu as.
Comme aujourd'hui aussi, je suis avec un bailleur en tant que consultant ou je je suis des projets. J'ai pas mal de projets, au minimum 8 projets que je suis. Mais je suis écœuré du fait que les gens ne respectent même pas, surtout les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'ouvrage délégués, ne respectent même pas certaines prescriptions.
Oui,
qui sont même d'autres même ne mettent pas en œuvre, ils mettent de côté le PGS.
Non, très souvent, les entreprises ont l'habitude de dire que ça les empêche d'aller rapidement. Parce que qui parle d'environnement, de sécurité, santé au travail, demande de prendre des précautions, de presque tout vérifier. Donc souvent, il y a des entreprises qui estiment que ça leur fait perdre du temps.
Oui, mais c'est parce que ces entreprises sont ignorantes de choses. C'est parce qu'on ne leur fait pas payer les dispositions du pollueur-payeur.
Ouais.
Sinon, une entreprise qui est dans une démarche de certification ne peut pas tenir ce genre de langage.
Ouais.
Une entreprise qui est certifiée ne peut pas tenir ce genre de langage, surtout certifiée ISO 14001 ou ISO 45001 ne peut pas tenir ce genre de langage. Ouais. Donc les entreprises... Aussi, on a mis sur cette disposition, les bailleurs ont mis, comme on a parlé à l'entame, ouais. Que ce soit les bailleurs ou bien d'autres types, ce n'est pas mis au hasard.
Ouais.
Le BTP a commencé à prendre les dispositions sécuritaires à partir de 2008 et c'est devenu un effet mondial.
Ça dit que de 92 jusqu'à 2008, il n'y avait pas...
Non, ça c'est sûr. Mais en 2008, la conscience... Aujourd'hui, vous voyez, on parle de journée safety. Pratiquement toutes les multinationales célèbrent cette journée.
Ouais.
Mais pourquoi? C'est à partir de 2008 que ça a commencé. Oui, mais... Et on prend conscience, on fait des réalisations. Oui, la technicité... Pour construire les routes, pour construire les ponts, c'est depuis la nuit des temps.
Ouais.
Le BTP, c'est depuis la nuit des temps. On sait le faire et tu ne vas pas recréer la roue, comme on le dit. Tu ne vas pas refaire le monde. Mais par contre, les morts sur les chantiers dans le BTP, ça va en crescendo. Donc, c'est cela, on met les actions. Que ce soit les impacts au niveau de l'environnement. Qui dit impact, c'est la pollution.
Ouais.
On voit de plus en plus après la réalisation. Donc, une entreprise qui te dit non, les dispositions ou les prescriptions environnementales et sécurité au travail leur fait perdre du temps. Mais tu ne sais pas ce que tu perds lorsqu'il aura la chose. Vous êtes en train de faire un coulage. Et il y a mort d'homme.
Ouais. Et les morts, c'est fini. Vous, quel que soit le truc, il ne peut plus
rien. Vous arrêtez. Tout le monde arrête. Tout le personnel, le choc psychologique.
Ouais.
Personne n'a l'engouement de travailler. Imagine-toi qu'on a déjà préparé, je ne sais pas, 20 tonnes ou bien 100 tonnes de béton à couler. Et les gens sont démotivés.
Oui, l'entreprise sent ça directement.
Mais tous les travailleurs sont démotivés. Vous allez perdre ce béton. Ça fait combien?
Ouais.
Dans les indicateurs HSE, on parle de temps de travail. Il y a des indicateurs, on calcule avec le temps de travail, le temps d'arrêt, le temps d'accident, accident avec arrêt. Tout ça, tous ces indicateurs-là, ce n'est pas fortuit.
Oui, mais au fait... De tout ce que tu as dit, quand tu prends du recul, tu te rends compte que toutes ces mesures, en réalité, ce n'est pas pour fatiguer quelqu'un, mais c'est pour la sécurité de tout le monde, en fait.
Tout le monde.
Parce que, imagine une entreprise qui, comme tu viens de le dire, qui perd un employé sur le chantier, c'est une perte. Déjà, la personne, sa famille, la paix, c'est fini. Imagine que toi, entreprise, tu as formé le personne, tu as investi en lui et tout ça. C'est vrai, ça, c'est négligeable par rapport à la perte de la personne même, mais ce sont des pertes.
Ce sont des pertes, ouais.
Donc... en parlant du troisième point, il y a une anecdote qui me t'est revenue. Je vais la partager, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais lorsqu'on était étudiant, qu'on est venu faire, comment on appelle ça, une visite de chantier, on nous a dit que, je ne sais pas si c'est l'entreprise ou un bailleur, qui avait demander à ce qu'il y a des oiseaux qui étaient quelque part qui ne devaient pas être déplacés. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça m'est revenu quand tu as parlé du troisième pont.
Oui, c'est vrai. C'est moi qui... La question, c'était moi qui répondais tout le temps.
OK.
C'était... Les bailleurs avaient commandité un bureau, bon, Aegis, qui venait faire un audit sur tous les aspects techniques et environnement et sécurité chaque 3 mois. Chaque trimestre. Maintenant, comme on le dit, dans la préparation, les documents qu'on prépare dans la... c'est même pas ça seulement. Hein. Il y a ceux qu'on appelle les fripiers.
Qu'est-ce que c'est quoi ça?
Les fripiers, c'est les vendeurs de yugu.
Ah, OK, d'accord. Les fripiers, OK.
Voilà. Il y a deux qu'on a déplacés. Il y avait 3 sujets. Il y avait les oiseaux. Il y avait les fripiers et puis il y avait les habitants de Blingué. Vous avez derrière, à l'arrière, dans le versant de l'université, là.
Oui.
Il y avait un petit village, bon, c'était habitat précaire. Depuis l'amphi de criminaux, les gens habitaient jusqu'à dans le ravin. Là.
Oui, il faut dire qu'en ce moment, l'université n'était pas clôturée.
Oui, en ce moment, l'université n'était pas clôturée. Oui. On était en 98. Oui. L'étude a été faite en 98.
Wow.
Et après la crise post-électorale, on a rasé tous ces endroits. Oui. Et puis l'université, ils ont fait la clôture, ils ont dégagé tout ce monde-là. Mais il fallait répondre, chercher à trouver... les habitants de Blingué.
Ouais.
Donc toujours, il y avait, bon, donc, il y avait la dame, le bailleur FMO, c'est une banque néerlandaise,
okay.
Qui est, c'était un conglomérat de bailleurs. De bailleurs. Voilà, il y avait FMO, là-bas était le chef de file, il y avait MIGA, c'est une autre, un des membres de la Banque mondiale. Donc, il y avait MIGA, FMO, BAD. Bon, en tout cas, voici, c'est les principaux bailleurs que je connaissais un peu. Qui étaient. Donc, lorsque vous partez, regardez, vous êtes au péage, regardez où il y a la statue du président Ouattara et du président Bédié.
OK.
Regardez juste au-delà. Vous allez voir, bon, aujourd'hui, il y a une touffe d'arbres que vous ne voyez pas. Il y avait un arbre qui était, c'était comme une île quelque part là. Et puis, il y avait des oiseaux dessus. C'était des tisserins, les oiseaux tisserins.
OK.
Voilà. Donc, chaque fois, c'était une petite île. Et même les Coréens, il y avait une entreprise coréenne qui faisait la drague avant. C'est-à-dire tout l'espace-là, c'était une zone marécageuse.
Hein, oui.
Et on a dragué
le sable
pour remblayer là. Mais ils ont failli nous créer des soucis en remblayant aussi cette
petite île.
Voilà, d'accord. Donc, voilà. Donc, même en termes de préservation de la biodiversité, il y avait des lézards. Il m'a fallu... faire libérer des lézards et j'ai pris en photo pour envoyer à des bailleurs pour que on puisse avoir choses. Donc, pour montrer, même dans notre l'obtention du label éco-site que je disais tantôt pour oui, tout ça, toutes ces preuves, il fallait les réunir, que chose. Donc, voilà, en termes de préservation de l'environnement, c'est tout ça.
Et ces oiseaux sont restés du début jusqu'à la fin du chantier?
Oui, les oiseaux tisserins sont restés là. Maintenant, sans les oiseaux migrateurs qui viennent par saison, de façon saisonnière et puis bon, qui partent, y a des mouvements, surtout quand on est dans le dernier trimestre de l'année, on a des oiseaux qui viennent donc. Il a fallu qu'elle arrive à cette période-là. Et puis elle a vu bon, une colonie d'oiseaux qui venaient, qui pilulaient cette et l'île en question. Et puis elle a pris des photos avant qu'on ait... Mais au moment où elle posait la question, c'était une période où on n'avait pas les oiseaux migrateurs. Ouais. Voilà, c'était les tisserins. Donc il y avait une espèce d'oiseau au moment où on faisait l'étude. Donc elle cherchait l'espèce.
Ah, ok,
peut-être
d'accord.
Elle avait des sensibilités ornithologues.
D'accord. On va parler maintenant des défis et des challenges que l'environnementaliste peut rencontrer dans le cadre de son travail. Je pense que tu en as déjà parlé.
Oui.
Parfois, vous êtes dans un projet où les moyens ne sont pas à disposition pour travailler. Mais est-ce que, hormis ça, il y a certains challenges ou certains défis auxquels vous êtes confronté dans l'exécution de votre travail?
Bon, le premier défi, c'est d'abord la connaissance, la compétence, la formation. Il faut avoir... Et la connaissance, il faut toujours accepter d'actualiser ses connaissances.
Ouais.
D'abord, l'environnement, c'est un domaine un peu transversal. C'est à cheval sur plusieurs disciplines. Voilà. Donc, faudrait être d'abord avoir un certain background, et comme on a dit tantôt, en fonction des échelles, en mission de contrôle, quelqu'un qui n'a pas de l'expérience, tu peux pas travailler.
Oui, puisque c'est du contrôle, on contrôle ce qu'on connaît.
Voilà. Chez le bailleur de fonds, que ce soit chez le bailleur de fonds ou bien chez le maître d'ouvrage, tu n'as pas de l'expérience. Tu ne peux pas anticiper sur certaines questions. Parce que la plupart des évaluations, comme on le dit, c'est en amont.
Oui.
En amont. Et souvent, on peut penser que c'est une vue d'esprit, mais on capitalise avec toutes les expériences acquises. Voilà.
D'accord.
C'est pour cela que chez les bailleurs de fonds, minimum, bon... Avant, les documents, je voyais pour être, ne serait-ce même que consultant à la banque, à la Banque mondiale ou bien à la BAD, il faut au moins 10 ans. Moi, la plupart, maintenant, sont descendus à 5 ans. Mais ça veut dire que 5 ans, et effectivement, tu as pratiqué le métier, tu as de l'expérience en fonction, avant qu'on ne te fasse confiance, bon, parce que ce n'est pas un projet. Maintenant, au niveau de l'entreprise, d'abord, il faut quelqu'un aussi qui a de l'expérience pour anticiper sur, pour discuter de gars avec la mission de contrôle. Et chaque fois, les missions d'appui des bailleurs, parce que souvent, les bailleurs, et même pas souvent, les bailleurs descendent sur le terrain également. Voilà. Donc, pour voir de près les investissements, peut-être une ou deux fois par an. Donc, les défis, c'est d'abord en termes de qualification et en termes d'expérience, en termes de savoir-faire.
D'accord.
C'est d'un. De deux, bon, il y a les défis, donc la compétence, donc il faut arriver. Mais aussi, il y a un autre volet de ce métier, c'est la sensibilisation. Vous êtes amené à sensibiliser. Et même vos collègues techniques, bon, quand je dis technique, tout le monde est technique.
Ceux qui ne font pas l'environnement, on va dire quoi, les conducteurs de travaux, les topographes, ainsi de suite.
Parce que vous êtes appelé à animer ce qu'on appelle les cadres
sécurité
et environnement. Donc, au bout de ces cadres, il faut arriver à convaincre, il faut arriver à expliquer de façon et tenir le langage de tout le monde. Passer le message à tout le monde, que ce soit celui qui est qualifié ou celui qui est moins qualifié, il est très... Il faut qu'il comprenne. Parce que c'est pas vous allez mettre les dispositions et autres, mais il faut que vos collègues arrivent à rentrer dans le moule que vous avez forgé. Voilà, donc... Ça, ce sont les défis en termes de faire passer le message, les défis au niveau de la confiance. Tout est lié. Si vous n'avez pas la compétence, vous n'avez pas l'expérience, vous n'allez pas pouvoir fait votre hiérarchie ou bien les managers vont déployer les moyens, vont mettre les moyens à votre disposition. Mais si vous n'arrivez pas à atteindre les résultats et chaque fois, on doit rejeter vos rapports, le bailleur doit rejeter vos rapports ou bien choses, comment dire, prendre des remontrances de la mission de contrôle, des observations de manquement, tout ça, ça veut dire que vous ne faites pas votre travail n'est pas satisfaisant et c'est un peu dommage. Et vous risquez de perdre votre poste.
Ouais.
Voilà. Et puis, bon, aussi, la grosse difficulté, c'est la conscience environnementale des managers, des décideurs, que ce soit au niveau du maître d'ouvrage, c'est-à-dire les coordonnateurs. Tous les coordonnateurs de projet ne sont pas aiguisés, ne sont pas sensibilisés à la question environnementale et sociale. Comme tu l'as dit tantôt, certains pensent que ça bloque les projets et ils ne comprennent pas le métier. Et il y a au niveau des entreprises également, il y a des directeurs projets, les gens ne mettent pas les moyens pour mettre des simples dispositions en place. Voilà.
Ok, je pense que nous sommes en train de tendre vers la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a, on va dire quoi, une expérience particulière qui t'a marqué? On va dire deux expériences particulières qui t'ont marqué durant toute, comment on appelle ça, durant ton expérience. Est-ce qu'il y a eu deux faits, par exemple, un fait pour lequel tu étais vraiment satisfait quand tu as vu que c'est réalisé? Et puis un autre fait qui a fait que tu n'as pas apprécié au fait dans le cadre de ta fonction en tant qu'environnementaliste.
Oh oui. Le premier fait que j'ai apprécié, c'est vrai, je vais toujours revenir. Moi, c'est le jour où on m'a annoncé qu'on a eu le label. On a eu le label EcoSite.
Ok. Sur le troisième pont?
Sur le troisième pont.
Ok.
Parce que il y a eu du boulot. Et c'était dans la phase, mes 3 mois d'essai.
Ok.
Et j'ai bossé pratiquement seul. Et c'est à l'issue de ça qu'ils m'ont...
confirmé?
Ils m'ont confirmé, ils m'ont permis d'avoir un assistant. Ça, c'est d'un. Le deuxième également, c'est lorsque le renouvellement de la triple certification de Bouygues en 2014, c'était le chantier d'Abidjan qui était retenu pour le renouvellement de la triple certification de Bouygues. Mais lors de l'audit, l'auditeur demandait quelque chose que je ne comprenais pas.
Ok. Bon, faut dire que comme tu l'as dit, tu commençais aussi.
Oui, mais après un an, bon, c'est vrai, je ne comprenais pas et c'était l'audit de certification, c'était ma première expérience.
Ouais.
Je ne comprenais pas. Et il était accompagné d'un gars, bon, un de nos patrons qui était au siège à Paris, qui est venu avec lui. C'était là. Après la pause, déjeuner, tout ça, a discuté. Et puis, ma responsable m'a demandé, lorsqu'on revenait de la pause déjeuner, elle m'a demandé, mais où est ton classeur de rapport mensuel?
Donc, tu n'as même pas oublié la question.
Non, mais c'est elle qui m'a demandé où tu as mis. Donc, je suis allé chercher le classeur de rapport mensuel. Mais, et quand je... et envoyer le rapport. Le classeur est remis à ma responsable et puis elle a donné à l'auditeur. Il a commencé à feuilleter. Mais tout ce qui demandait, tout était dedans.
Ouais.
Et tel qu'on faisait le rapport, bon, c'était. Bon, ça avait été impeccable. Donc, il était là, il a dit voilà, vous faites de bons travaux comme ça, et puis, depuis, on demande cette
chose. Vous n'arrivez pas à parler. Pas.
Et celui qui l'accompagnait, il a explosé. Il dit mais, c'était comme une bouffée d'oxygène.
Ouais.
Il s'est levé de sa chaise. Mais moi, donc, à partir de là, il a dit que c'était ça le manquement si la triple certification on ratait.
Wow.
Donc, tout était dans les rapports et c'était classé chaque mois. On avait des indicateurs, on faisait des mesures, En tout cas, tout le suivi était fait et classé avec des interprétations, des graphiques, des camemberts, des interprétations, des explications. Pourquoi si telle valeur était élevée, pourquoi on a eu ça. Bon, en tout cas, tout bien documenté, toutes les informations. Et là, c'était une chose. Maintenant, l'expérience amère, c'est que là, c'est parce que maintenant, j'étais sur des entreprises, d'accompagner des entreprises, mais pas véritablement en tant que tel, parce que c'était bon, comme un contrat d'assistance. Mais je devais jouer le rôle d'environnementalisme. Et c'était comme. J'allais dire, c'est de la pacotille, c'était pas un engagement véritable à respecter les choses, mais c'est de brandir, peut-être de me brandir comme.
On a un environnementaliste.
Un environnementaliste, et puis je viens juste faire
de la figuration.
Voilà, et je ne me sentais pas.
Ouais.
Je ne me sentais pas véritablement dans ce. Parce que moi-même, en tant que. Mais c'est malheureux parce que les missions de contrôle, les gens n'étaient pas expérimentés. Et même l'unité de gestion du projet, l'environnementaliste, n'était pas expérimentée. Donc, quand ces personnes viennent sur le chantier, regarde des choses où moi-même, je n'étais pas convaincu. Je n'étais pas satisfait.
Et ils passaient dessus, mais que c'était bon.
Et moi, si c'était moi qui étais à leur place,
mais il y avait une crise de conscience, au fait. C'est-à-dire que tu fais un travail pour lequel toi-même, tu n'es pas satisfait.
Non, je n'étais pas satisfait. Bon, mais c'était. Voilà, c'était un peu ça, mon c'était ma déception ou bien c'est pas la question aussi c'était
si,
ça
oui, une expérience voilà, amère
donc c'est l'expérience amère chose et puis voilà donc quand tu n'es pas utilisé et comme il se doit et puis chose bon c'était ça quoi.
D'accord.
Parce que moi je n'aime pas être dans un environnement où je travaille pas véritablement. Je okay. Fais pas ce que j'aime, faire ce que j'aime. Et voilà, il fait ce que.
Être satisfait de ton travail. Être
satisfait et puis sentir que tu as apporté quelque chose. Quoi. Voilà. Okay. C'est pour cela que toujours je viens sur les. Il a fait des choses, mais c'est pour cela que je viens sur l'expérience de troisième point. Bon, l'entreprise n'existe plus, c'est vrai que la maison mère existe toujours, mais j'aime revenir sur ça. C'est
oui, c'est un projet qui t'a beaucoup marqué.
Ça m'a marqué et à tout point de vue et pense que chose. Maintenant, aujourd'hui, ce que je fais, il y a la satisfaction, il y a du challenge, mais je suis du côté des bailleurs et bon, je trouve il y a du challenge et surtout le bailleur avec lequel je travaille beaucoup aujourd'hui, ce bailleur-là, demain, te responsabilise.
Ouais.
Voilà, ce n'est pas un consultant ou bon, te met, on te responsabilise sur des projets, tu interagis.
Tu sais que tu es en train de travailler vraiment. De
travailler, les discussions. Voilà, donc il y a pas même il y a des diligences encore. Ce soir, chaque jour, je dors 1h du matin en train de bouquiner, de faire réagir sur des choses. Mais il faut à un certain niveau de tout pour pouvoir réagir comme ça et puis prendre plaisir. C'est vrai, derrière, tout on cherche l'argent, mais quand tu prends plaisir à
faire ce que tu
fais, quelque chose, et puis je travaille principalement sur des projets de mon pays. Bon, seulement que je suis un peu écœuré parce que la réaction, c'est pas ça, la satisfaction en termes de rendu du côté des collègues du pays, c'est pas ça, mais bon.
On est obligé de faire avec.
On est obligé de faire, mais ça, je prends du plaisir à le faire parce que je sais que je suis en train de travailler pour mon pays et je pense que petit à petit, avec le nouveau code de l'environnement de la Côte d'Ivoire, avec les dispositions qui vont, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, je pense que dans 5 ou 10 ans, pratiquement tous les projets seront, les gens et une certaine génération, et ils voient, toi, tu as du génie civil, tu t'intéresses à ces questions-là.
Oui, bien sûr.
Je suis sympa, si un jour tu as un poste de responsabilité, je pense que le regard que certains décideurs ont aujourd'hui sur les questions environnementales, ce regard-là va changer d'ici peu.
Oui, voilà, je pense aussi, parce que plus on avance, plus le volet environnemental commence à occuper, disons, à récupérer la place importante qu'elle devait avoir. Parce que on le constate, avec tel qu'il pleut actuellement à Abidjan, c'est pas comme ça, il pleuvait 10 ans auparavant. Et tout ça, c'est dû au changement climatique. Le changement climatique, d'aucuns diront que notre quota de pollution est négligeable.
Mais ça, c'est aussi, en termes de pluie, moi, je te conseille, il y avait plus de pluie à Abidjan que maintenant.
Ah bon?
Oui.
De manière en griffe désordonnée comme ça, parce qu'on avait une saison de pluie qui était connue.
Oui, voilà.
Oui, donc,
si c'est ça, d'accord. Maintenant, le dérèglement, sinon la pluviométrie a beaucoup diminué à Abidjan.
Oui, enfin, mais c'est plus régulier comme avant et tout. Ouais.
Sinon, la déforestation d'Abidjan, avant, il y avait ça. Mais seulement, il y a beaucoup d'impact aujourd'hui.
Oui.
Les inondations, c'est dû à l'imperméabilisation des
surfaces, des sols et tout.
Le drainage, la construction anarchique. Bon, c'est ce qui fait qu'on a plus de conséquences. Ouais. Sinon, la pluviométrie à Abidjan,
elle a diminué, mais elle n'est plus régulière et plus d'autres problèmes, ainsi de suite. D'accord, je pense que avant de terminer, j'aimerais savoir si tu avais des conseils pour les plus jeunes. Qu'ils soient ingénieurs génie civil, qu'ils soient des jeunes qui s'intéressent à l'environnement et tout. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil?
Le conseil que je peux donner, c'est la connaissance, de chercher à avoir la connaissance, le savoir-faire.
Ok.
Il n'y a pas plus ridicule que quand tu de parler devant des sachants où tu as à un poste de responsabilité, peu importe responsabilité, même si tu es simple conducteur de travaux ou bien chose, mais ne pas faire des erreurs graves. Donc, il faut être convaincant, il faut avoir le savoir-faire, il faut avoir l'humilité d'apprendre quand on ne sait pas, ou bien on arrive dans un secteur, tous les secteurs, chercher à comprendre. Et lorsqu'on travaille avec des gens, chercher à comprendre leur feeling, leur façon de faire, surtout le travail, le métier d'environnementaliste ou HSE, si vous ne comprenez pas la façon de fonctionner des gens pour adapter votre discours ou votre façon de faire, vous allez toujours buter sur des refus.
Okay.
Donc, il ne s'agit pas de jouer les gendarmes, mais de faire participer à ce que la sécurité ou l'environnement, la protection de l'environnement ou la protection, la santé, sécurité au travail, ou seul vous ne pouvez pas œuvrer, faire changer les choses sans la collaboration des autres collègues.
Ok.
Voilà, ça c'est d'un de. Donc, si ce principe-là est acquis, je pense que le reste c'est la chose. Mais chercher à se former, chercher à se cultiver, parce que l'environnement, il y a une interaction sur tout,
ouais,
les disciplines. Donc, chercher aujourd'hui, on parle de ESG, environnement, social et gouvernance, c'est ça qui revient, ou RSE, mais cette terminologie, c'est la même chose, mais avec beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus de culture, hein, de connaissances. Donc, il faut être toujours en alerte, il faut se cultiver, il faut se documenter. Même des informations qui peuvent passer de façon anodine, il ne faudrait pas que ça passe inaperçu. Il faut chercher à t'intéresser. Parce qu'un jour, dans ta documentation, dans les informations ou bien dans la rédaction d'un document où tu auras besoin de ces informations-là. Mais chercher toujours à avoir des preuves documentées, toujours les informations ou les avis, hein, bon, que ce soit les autres secteurs, le génie civil, c'est vrai, à l'école, on va vous apprendre l'utilisation des abacs, des choses, mais aujourd'hui, la jeune génération du génie civil ne peut pas faire le génie civil comme les anciens des grands travaux.
Qu'est-ce que tu entends par là? Je ne comprends pas bien.
Oui, j'utilisais les abacs, sur papier.
Oh, oui, avec, aujourd'hui, on va dire l'informatique et tout.
Voilà, aujourd'hui, avec la digitalisation, avec les logiciels, donc il faut beaucoup apprendre les logiciels pour être les choses. Avant, ceux des grands travaux, les anciens prenaient les abacs.
Oui, c'est
vrai, ils faisaient le truc, mais aujourd'hui, il faut apprendre les logiciels, il faut être à jour des choses. Ça simplifie la vie, mais aussi il faut se former. Il faut se former à pas mal d'écoles ici. Il y a des certificats, surtout les certificats. Il faut chercher à avoir des certificats de façon concrète, de façon pratique, pour optimiser ses compétences et autres, tout ça.
D'accord. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation et puis pour tout le savoir que tu as bien voulu partager avec nous. Bon, j'ai beaucoup appris durant cet épisode. J'espère que ce sera pareil pour les auditeurs. Et bon, je tiens vraiment à te dire merci. Et puis, sur ce, bye.